Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Romain de Osponzo. Écoute, Romain, je suis très content de te recevoir parce que ça faisait un moment qu'on avait dit qu'il fallait qu'on enregistre ensemble. Et là, en plus, on va parler d'un sujet qui est vraiment un sujet hyper important pour moi. C'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, hein, donc c'est pour ça que je suis très content de te recevoir parce que je pense que je vais apprendre plein de choses et j'espère que nos amis organisateurs vont aussi apprendre, mais j'en suis convaincu. Comment vas-tu, Romain?
Eh bien, écoute, ça va très très bien, François. Merci pour commencer. Merci de m'accueillir sur ce podcast. Et je te confirme que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il parle à beaucoup d'organisateurs, quelle que soit leur taille. Donc, hâte de partager tout ça avec toi.
Alors, est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, par te présenter?
Très bien. Moi, du coup, Romain Piot, j'ai 38 ans, deux enfants, très très bientôt trois, d'ici quelques jours. Et moi, j'ai fait le début de ma petite carrière pro dans une agence d'événementiel sportif à Paris qui s'appelait Run for You. Et pendant quoi une douzaine d'années, j'avais deux métiers principalement qui étaient celle d'organisateur d'événements, donc on organisait pas mal d'épreuves en région Île-de-France, Écotrail Paris, semi-marathon de Boulogne, verticale de la Tour Eiffel. Et j'avais une autre casquette au sein de l'agence, et nous on était en charge du développement commercial de l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB. Et donc pendant 10-12 ans, j'ai d'abord géré le salon, le développement du salon sur l'UTMB. Et rapidement, avec Jean-Charles Perrin, on a géré des partenariats de ce super événement. Donc on a vu grossir la machine. Et donc du coup, moi, 2020, j'ai arrêté l'aventure avec Run for You pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancé avec mon frère Vincent, qui lui est développeur. Alors, tout ce qu'il sait faire techniquement, moi je ne sais pas le faire. Tout ce qui est développement informatique et tout ce qui est développement commercial marketing, c'est moins sa tasse de thé. On était très très complémentaires. Et du coup, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant la société Dokeop, qui répondait à un sujet très très administratif chez les organisateurs, et qui va parler, j'imagine, qui est le sujet du certificat médical. Donc en fait, en quelques mots, Dokeop, c'est une solution qui gère tous les certificats médicaux à la place de l'organisateur, et surtout qui endosse toute la responsabilité pour vraiment lui enlever cette grosse charge mentale au quotidien dans l'organisation. Et donc, Dokeop aujourd'hui, c'est un peu plus de 250 événements qui couvrent essentiellement trois pratiques sportives, trois disciplines, course à pied, cyclisme et triathlon. Et parmi les belles références qu'on a, en course à pied, on travaille avec l'Équidène Paris, l'Écotrail, avec la Saint-Élion, l'UTMB. Je le cite en dernier, mais c'est parce que on vient de signer avec l'UTMB cet été. Sur triathlon, on travaille avec le circuit Ironman en France et en Italie. Et puis en cyclisme, on travaille notamment avec la MB Race. Donc voilà, c'est avec Vincent, ça fait maintenant 4 ans qu'on a développé Dokeop, et aujourd'hui on lance en fait un nouveau service, toujours dans la même philosophie qui est de simplifier le quotidien de l'organisateur, mais sur un autre sujet qui est cette fois-ci le sujet du financement, le financement à travers le sponsoring, que ce soit enfin à travers les partenariats, que ce soit du sponsoring ou du mécénat. Et l'idée avec notre solution qui s'appelle Osponso, c'est d'accompagner tout type d'organisateur finalement dans la gestion des partenaires, les aider dans la recherche des partenaires, et une fois que les partenariats sont signés, de les aider à délivrer avec plus de professionnalisme l'ensemble des contrats. Voilà, je ne sais pas si c'était long ou pas long, mais
Non, mais
je pense
c'était très clair.
être.
En tout
Ouais,
cas,
ok.
ça a fait un bel historique, une belle avancée rapide de tout ce que tu as pu développer. Comment est-ce que toi, ton cœur de métier, c'est le développement, le marketing, tu l'as dit. Comment est-ce que t'es venu l'idée d'Osponzo? Comment vous est venue cette idée? Et quelles ont été les premières, on appelle ça les pains en anglais,
Ouais.
là, les premières douleurs, souffrances que tu as identifiées chez les organisateurs sur le sujet du développement du sponsoring et des partenariats.
Alors, je me permets juste une petite correction sur la prononciation, c'est Osponso, mais en fait, c'est déjà moi, comme j'ai fait ça pendant 10 ans, l'avantage dans mon ancien job, c'est qu'on travaillait pour tout type d'événements. Alors, effectivement, des grosses machines que sont l'UTMB, l'EcoTrail Paris, qui ont des vrais gros enjeux financiers, mais on accompagnait aussi des courses plus locales en région Île-de-France, avec des budgets plus serrés et naturellement des revenus sponsoring beaucoup plus serrés. Et en fait, ce que j'ai constaté, plusieurs choses. Déjà, c'est que quel que soit en fait le niveau de partenariat, quel que soit ton budget, que tu sois sur un petit projet, un projet plus modeste qui va résonner en milliers d'euros ou en dizaines de milliers d'euros de budget et de revenus, ou que tu sois sur une grosse machine où là tu vas plutôt raisonner centaines de milliers voire millions d'euros, en fait tu as un dénominateur commun, c'est que en tant qu'organisateur, ta volonté c'est d'augmenter tes revenus de sponsoring. Et que pour ça, tu as deux leviers. C'est soit tu trouves des nouveaux partenaires, mais je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on veut tous faire, mais c'est pas ce qui est le plus simple. Parce que trouver des partenaires, trouver des gens qui sont prêts à financer une partie du projet, il n'y en a pas à tous les coins de rue, sinon ça se saurait. Donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième, c'est de dire, une fois que j'ai des partenaires, je vais faire en sorte de les garder le plus longtemps possible, les fidéliser. Et donc pour ça, il n'y a pas de recette magique, hein. Il s'agit de, pour que le partenaire soit content, il s'agit de bien respecter ce qui est prévu dans le contrat, faire en sorte qu'il active du mieux possible, qu'il optimise son retour sur investissement. Et donc ça, ce sujet-là de délivrer du mieux possible tous tes engagements vis-à-vis de tes partenaires, tu le retrouves dans n'importe quel type d'organisation et de d'événements. Du coup, nous, on a avec Vincent, on a essayé de regarder comment au quotidien en fait tu fais, quels outils tu utilises pour gérer tous tes partenariats, que ce soit de la prospection, en passant par l'activation et en terminant par la phase de reporting une fois que ton projet est passé. C'est quoi les outils? Et en fait, on a vite fait le tour. C'est que on faisait tous un peu de la même façon. On fait tous encore jouer un peu de la même façon. On utilise Excel, ou du moins des tableurs, pour recenser tout ce que tu es susceptible de proposer à tes partenaires. Tu vas utiliser beaucoup PowerPoint ou Canva, qui est forcément de plus en plus présent, mais concrètement, tu utilises des outils pour faire des présentations. Et puis au quotidien, tu utilises beaucoup ta boîte mail, ton téléphone, ton WhatsApp, ton Slack, enfin, tout un tas d'outils pour interagir soit avec tes collègues dans l'équipe ou dans l'organisation, que ce soit pro ou bénévole, hein, et aussi pour interagir avec tes partenaires. Et là, des mails, il y en a dans tous les sens. Un coup, c'est pour demander un logo, un coup, c'est pour demander des infos sur les activations. Et à force d'envoyer des mails dans tous les sens, on perd un peu la vue globale de tous tes engagements. Et dès lors que tu sais que la priorité numéro un d'un organisateur, c'est de bien exécuter tous ses contrats pour faire en sorte que le partenaire soit content à la fin, tu te dis que y a une certaine limite à avoir des outils un peu de façon artisanale, Excel, PowerPoint, Mail. Donc, nous, c'est partant de ce point-là qu'on a imaginé du coup la solution au sponsor, dont l'objectif, il est assez simple, hein. C'est déjà de centraliser toutes les infos au même endroit, dans une seule et même plateforme. C'est de permettre les interactions entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire côté organisateur, mais aussi côté partenaire, permettre un échange facile et très simple. Et puis, le tout, c'est la plus-value de l'outil, c'est faire gagner du temps. Parce que tu perds beaucoup de temps au quotidien sur plein de sujets très administratifs avec tes partenaires. C'est faire gagner du temps et surtout aider à renforcer le lien qui existe aujourd'hui entre un orga et tous ses partenaires. Parce que si les partenaires sont contents, c'est très simple, c'est très basique, hein. Si les partenaires sont contents, il y a de fortes chances que quand tu leur présentes le projet de l'année suivante, tu les gardes, et que si tu leur demandes potentiellement de rallonger un peu la mise et un soutien un peu plus conséquent, s'ils sont satisfaits de ce que tu as fait avec eux, forcément, tu auras plus de chances pour qu'ils abondent en ta faveur. Donc voilà, nous, c'est notre point de départ qui a fait qu'on s'est lancé avec Vincent dans le développement d'une solution qui permet de faciliter tout ça, quoi.
Ah, c'est exactement ce que j'ai constaté sur le Grand Raid du Finistère, c'est que les partenaires qui nous ont accompagnés dès le départ, dès le début du projet où il n'y avait encore que 50 personnes qui couraient, ils ont mis une petite mise, qui est une petite mise pour des partenaires de cette ampleur, je parle de banques ou de grosses boîtes d'équipement.
Oui.
Et ce qu'on constate, c'est que chaque année, ils augmentent un petit peu la mise pour que l'année prochaine, qui sera la vraie édition numéro 2, donc là où il y a eu déjà une vraie édition cette année, eh ben, ils vont passer à la vitesse supérieure parce que, en fait,
Bien
ils ont
sûr.
été satisfaits sur les premières éditions. Donc, je pense que c'est déjà un premier conseil, ça, de vouloir commencer petit et puis d'augmenter progressivement les mises que les partenaires vont mettre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on a constaté, c'est que peut-être qu'avant l'événement, quand on est encore au calme dans son bureau, c'est très clair de dire, voilà, ce partenaire-là, il a financé tant, il a pris telle prestation. Mais le jour J, quand il y a tout qui s'active, quand il y a plein de bénévoles qui arrivent, quand les coureurs sont là, de savoir que telle prestation qui avait été commandée par tel partenaire, bien en amont, a été fait et on passe pas à côté, c'est pas quelque chose qui est simple quand on a déjà beaucoup de choses à gérer le jour J. Et donc la solution Osponso, pardon, je vais y arriver. ça facilite aussi ça, cette tâche qui est l'exécution
Ouais.
le jour J.
Bah oui, et enfin nous, enfin on a fait aussi un constat. Après, moi, pour avoir bossé 10-12 ans sur les événements, tu t'arrives rapidement à la conclusion qu'il y a deux types de partenariats. Il y a le partenariat rationnel, c'est-à-dire que c'est une marque qui investit chez toi parce qu'elle attend un retour sur investissement. Il y a plein de façons, il y a plein de choses que des partenaires peuvent attendre quand ils soutiennent un événement. Naturellement, le premier truc auquel on pense, c'est la notoriété, la visibilité, se faire connaître auprès d'une audience que ils connaissent pas forcément. Il y a l'image de marque. Exemple très basique, mais que va parler à tous les organisateurs, c'est la banque. La banque, ce qu'ils recherchent en local, c'est de pouvoir montrer qu'elle soutient le tissu local, associatif. Et ce qui l'intéresse, elle, c'est d'aller toucher une audience pour aller, in fine, aller leur proposer potentiellement leur service et renforcer cette image d'un acteur ancré sur son territoire. Donc ça, c'est une autre façon, c'est aussi des choses que peuvent chercher les partenaires. Mais il y a aussi d'autres trucs, c'est ce qu'on appelle le team building, c'est comment un événement, moi, peut m'aider à fédérer mes équipes ou inviter des clients. Et pour ça, les événements sportifs et les courses à pied trail sont hyper pratiques parce que c'est simple de proposer des formules de un dossard et potentiellement une petite collation après course. Et puis il y a ce que peut venir chercher une marque, c'est c'est communiquer tout au long de l'année et avoir des actions de communication. Et donc là, on est dans le partenariat très rationnel. Après, tu as l'autre type de partenariat qui est le partenariat forcément irrationnel, mais qui est de l'ordre de l'affect. Et là encore, je pense que les organisateurs, ça va leur parler, c'est tous les partenaires qui vont mettre un petit billet parce que c'est des copains, parce que c'est du réseau. Donc c'est pour faire plaisir ou parce que le patron de la banque ou de l'assurance ou de n'importe quel business, il adore le trail, il adore l'ultra trail. Donc forcément, il va être plus encouragé à mettre un petit billet chez toi que dans une autre discipline sportive. Donc là, on est dans le partenariat irrationnel. Cette configuration, tu la retrouves dans tout type d'événement, que tu sois sur l'événement très local à petit budget ou que tu sois sur un événement international. Tu as toujours ces deux types de partenariats. Et une fois que tu sais ça, en fait, il y a deux tendances à avoir. C'est-à-dire pour le partenariat rationnel, la banque qui vient investir chez toi pour faire de l'image de marque, toi, ton enjeu, c'est de nouer une relation, pour le coup, c'est de personnaliser le lien que tu vas avoir avec cette banque-là pour faire en sorte que, au-delà du retour sur invest et des trucs un peu chiffrés, elle puisse s'attacher à toi, à ton projet, pour que, in fine, quand tu leur demandes de continuer, ils disent: Ah ouais, non, mais moi, trop cool le grand raid. En plus, c'est une équipe super sympa. Bon, vas-y, je continue à les aider parce que j'aime bien l'idée. Donc, il faut que tu personnalises le truc. Et à l'inverse, quand tu es sur du partenariat très affect, typiquement la directrice ou le directeur de l'agence qui toi te connaît personnellement et pour ça te donne un et c'est pour cette raison-là qu'ils vont te soutenir, là ton objectif il est clair, c'est tu dois rationaliser, tu dois faire en sorte de te détacher de ce lien très affectif pour donner vraiment du sens au partenariat. Et pour l'illustrer, c'est si demain la directrice d'agence de la banque qui te soutient quitte l'agence, toi tu vas te dire: Ah mince, du coup, attends, est-ce qu'ils vont continuer à m'épauler si, est-ce qu'ils vont continuer à me soutenir si la directrice est plus là? Et c'est bon, et c'est là que, du coup, tu dois leur montrer que, bah, tu dois rationaliser le partenariat, leur montrer que tu leur apportes de la visibilité, que tu les aides à activer, etc., etc. Donc, en fait, il y a un point d'équilibre entre ces deux types de partenariats et nous, avec Osponso, l'avantage de tout rentrer dans des cases, de construire de façon très claire et transparente tes différents programmes de sponsoring, de consigner tout ce que tu fais en temps réel. Tu as installé une arche pour ta banque, on va rester sur le cas de la banque, hein, parce que je pense que ça parle beaucoup, mais tu as installé une arche de ta banque partenaire sur ton lieu de départ, et bien tu prends une petite photo, tu la consignes directement dans Osponso, et ton partenaire, en temps réel, il reçoit une petite notif qui l'informe que l'arche a été mise en place et qui l'invite à consulter photo à l'appui où l'arche elle est. Et ça, tu organises ton événement a lieu le samedi. Je pense que ta directrice de banque qui reçoit une petite notif le vendredi et dit tiens, l'arche est mise en place et tout, elle va se dire putain, c'est carré leur truc, c'est carré, ça délivre. Et puis en plus, petit sentiment de fierté, bah, elle voit sa marque qui est installée et donc ça rajoute un petit plus. Donc c'est dans cette philosophie-là, nous, qu'on a conçu l'outil, quoi.
C'est très intéressant ce côté j'exécute et d'être que le partenaire qui vient pas forcément sur l'événement soit sûr, certain que ce qu'il a commandé, entre guillemets, soit respecté. Quand on est organisateur d'une course qui commence à se faire connaître, qui dépasse un petit peu les frontières locales, on essaye parfois d'aller chercher des partenaires un peu plus gros, un peu plus grands, des boîtes nationales potentiellement, voire internationales. Quand on est derrière son écran, qui on va contacter pour aller chercher ces gens-là?
Bonne question. Bah après, je pense que c'est important déjà de se poser la question de qui sont les partenaires dont j'ai besoin pour développer mon événement. Enfin, toi, parce que si tu fais pas ce travail-là, il y a de fortes chances que tu, dans ta prospection, ta recherche, tu partes un peu dans tous les sens et que c'est simple à comprendre. Si tu pars dans tous les sens, tu vas vite t'essouffler. Et puis il y a un moment, tu vas pas forcément avoir les résultats escomptés. Donc déjà, première question, c'est de quoi j'ai besoin pour faire en sorte que mon événement soit réussi. Parce qu'il y a, oui, il y a du cash, c'est bien d'avoir un soutien financier, parce que ça va toi t'aider à te structurer, ça va t'aider à financer des prestataires qui vont permettre à ton événement d'être de meilleure facture. Et puis, concrètement, ça va aussi aider votre organisation à se rémunérer, et c'est pas neutre. Donc oui, tu as besoin de cash. Après, tu peux avoir besoin de matériel, tu peux avoir besoin d'alimentaire sur tes ravitaux, tu peux avoir besoin de relais de communication, parce que ce qui finance ton événement, c'est tes coureurs, en partie. Et donc, ton enjeu number one, c'est de recruter le maximum de coureurs. Et en ça, les partenariats médias, ça peut être hyper intéressant, parce que ces partenariats-là vont te permettre de toucher une audience que tu n'aurais jamais les moyens de toucher avec ton budget, si c'est toi qui devais financer les campagnes. Et donc, déjà, premier fil, c'est de quoi je vais avoir besoin. Ensuite, une fois que tu as identifié de quoi j'ai besoin, il faut que tu essayes de voir, OK, en fonction des besoins, quels sont les secteurs d'activité que je vais cibler pour au final répondre à ces besoins-là. Très concret, j'ai besoin de proposer de l'alimentaire sur mes ravitaillements. Bah, du coup, secteur d'activité, je vais aller, moi, dans mon target, je vais aller identifier les grandes surfaces. Les acteurs de grande surface, de grande distribution. Je vais aller potentiellement aller cibler des marques ou des producteurs, des denrées que je cherche ou des marques de boissons. Voilà, je fais ce truc-là. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir commencer. Une fois que tu as identifié les secteurs, bah, tu vas dire bah, c'est qui les marques qui sont dans ce secteur-là? Je reprends les grandes surfaces parce que c'est facile à comprendre. Ok, grande surface, tu vas dire, bon, il y a Leclerc, Carrefour, Super U, Intermarché, je pense que j'en ai déjà cité pas mal. Et tu vas dire, ok, il y a ces acteurs-là. Bah, avant de commencer à les contacter, déjà, tu peux te renseigner sur qu'est-ce qu'ils font eux au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que dans leur communication, j'entends, est-ce que ces marques-là communiquent plus dans le vélo, plus dans la boxe, le golf, le tennis, le foot ou la course à pied? Et déjà, tu auras des premiers indices qui te permettront de dire, bon, il y a des chances que si je les contacte, je ne sois pas hors sujet si je leur parle de trail. Et une fois que tu as fait ça, tu vas arriver à, ok, bah, tu as identifié deux marques qui investissent dans le sport, qui investissent dans la course à pied, dans le trail, là tu vas pouvoir dire bon, je les contacte. Après, il va falloir que tu te dises est-ce que je les contacte en local ou en national. Concrètement, la seule chose qui peut te permettre de répondre à ça, c'est de comprendre quelle est ton audience à toi. C'est-à-dire que si tes coureurs, si tes participants sont à 90% bretons, il y a de fortes chances qu'une marque nationale n'investissent pas chez toi parce que du coup c'est du coup toi tu vas leur dire moi j'ai une niche par rapport à votre audience globale et donc ils vont dire bah ouais si tu contactes je sais pas moi Super U à national ils vont dire bah contactez plutôt Super U local parce que lui ça va l'intéresser de toucher des Bretons moi niveau national j'ai plutôt des budgets pour toucher des audiences nationales et donc pour répondre à ta question est-ce que déjà pour aller voir des marques en national ou international. Faut que déjà que tu aies la garantie, je pense, d'avoir une audience, d'avoir la lecture de ton audience. Sachant que ton audience, et je pense que ça, c'est un point hyper important pour les organisateurs, qui, par expérience, sous-estiment, mais très largement, la valeur de leur audience. L'audience, c'est. T'as deux types d'audience. On pourrait dire trois, mais grosso modo, t'as les participants à ton événement, qui sont les gens qui prennent un dossard chez toi et que tu vas voir auprès de qui tu communiques toute l'année par réseaux sociaux, email ou autres supports et que tu vas voir physiquement sur ton événement pendant 1, 2, 3 jours. Ils viennent sur ton village prendre leur dossard et puis ils viennent le jour de la course pour faire la course. Ça, c'est une audience. Donc, que tu peux facilement quantifier, bah, c'est le nombre d'inscrits que tu as à ton événement. Après, tu as un autre type d'audience. Et là, on est sur une audience qui est largement sous-estimée par les organisateurs, quelle que soit leur taille, c'est ton audience digitale. C'est tous les gens qui sont exposés à ton événement grâce à tout ton travail de communication que tu fais. Et pour le coup, enfin, toi, tu es bien placé, François, avec tes événements, c'est que toi, tu communiques énormément, enfin, tu produis énormément de contenu pour faire parler de ta course et en faisant ça bah du coup tu touches des gens sur tes réseaux sociaux que ce soit Facebook, Insta, Strava qui est un super canal aussi de communication ou LinkedIn si t'es plus business et là cette audience-là pour toi ça va être hyper important de la comprendre c'est qui les gens d'où ils viennent quel est l'âge moyen machin et là peut-être que tu peux te rendre compte que effectivement tu as une audience qui est hyper nationale parce que les gens sont hyper fans de ce que tu racontes, de ce que tu produis. Et là, bah, clairement, tu auras les arguments pour aller voir une banque nationale pour dire, bah, nous, on organise un événement en Bretagne, certes, mais tout au long de l'année, on a une audience de X milliers de personnes qui s'intéressent à notre événement. Et donc, cette audience-là, c'est une audience qui peut intéresser tes futurs partenaires. Enfin, et juste pour compléter, moi, c'est ce que je dis toujours aux organisateurs qu'ils sous-estiment. Faut pas oublier que les gens qui s'inscrivent à ton événement, les gens qui consultent tous les contenus que tu vas produire, ça, du coup, cette audience-là, c'est une audience que les marques, au quotidien, elles doivent investir de l'argent. Bah, vraiment, là, on est dans l'hyper concret. Les marques doivent investir de l'argent pour être capables de toucher ces audiences-là via un procédé très très simple, ce qui est la publicité. Si je reprends une banque nationale ou une marque, une grande distribution, ils ont des budgets publicités énormes pour pouvoir toucher ces audiences-là de façon hyper ciblée. Toi, grâce à ton projet, bah, du coup, tu as cette audience qui t'appartient et c'est cette audience-là que tu dois vendre. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'organisateurs en local, enfin, des événements très, 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 très locaux, départementaux, régionaux, qui sous-estiment ce point-là parce qu'ils ont une communauté super forte, mais qui ne valorisent pas. Et pour autant, les annonceurs, bah, ils sont très prêts à comprendre si on leur explique que, bah, que une audience, ça a un coût et que donc, c'est pas illogique de demander un billet pour soutenir le projet, quoi.
C'est pour appuyer ce que tu dis, le Grand Raid du Finistère, c'est 300 participants, toutes courses confondues,
Oui.
et tout format confondu. Et pourtant, le suivi live, c'est 20 000 impressions
Bah ouais.
en 2 jours.
Et
Voilà.
c'est énorme.
Donc, c'est énorme. C'est énorme en comparaison au nombre de participants. Notre baliseur, celui qui nous a fourni donc les balises GPS pour les coureurs et qui a assuré le suivi live, était très impressionné de ce chiffre. Et ça montre que l'audience qu'on touche, voilà, elle est vraiment, comme tu le disais, à mettre en perspective entre les participants et les personnes qui vont suivre la course au-delà des gens qui sont là physiquement.
Et bah ouais. Et après, c'est, je pense, c'est aussi historiquement, je trouve que ce biais-là et le fait que les organisateurs, à mon sens, hein, se dévalorisent un peu trop et sous-estiment leur potentiel, c'est que historiquement, les partenariats, c'était des partenariats d'échange. C'est-à-dire que la banque, elle arrivait sur un événement, elle mettait à dispo une arche, elle mettait à dispo des goodies pour les participants. Alors maintenant, enfin, on sait ce que c'est. Enfin, on a une approche un peu différente maintenant par rapport aux goodies, mais pendant très longtemps, en fait, les acteurs, les sponsors, eux, ils valorisaient ce qu'ils apportaient à un événement, que ce soit de l'arche, de la visibilité. Et puis ils disaient, bah tiens, en échange de ça, moi, je suis partenaire de ton événement, je suis visible sur ton affiche, sur tes t-shirts, sur tous tes supports de communication. Et pour le coup, là, on est dans des deals qui sont hyper déséquilibrés. Et alors que toi, de ton côté, pour organiser un événement et même avec 300 participants, bah tu on est, je pense pas me tromper en disant que c'est un travail que toi tu mènes à l'année sur ce projet-là, de préparation. Tu fais en sorte de trouver des prestataires de qualité.
Je t'entends plus, Romain.
Ouais, excuse-moi, ça a coupé.
Ouais.
Je vais mettre tout de suite mon téléphone en avion, excuse-moi. Ça nécessite un travail toute l'année et que là, pour le coup, toutes les organisations, tous les organisateurs, et là, en local, en national, c'est la même chose, c'est que c'est un travail monstrueux qui est fait durant toute l'année. Quand c'est pas par des équipes professionnelles, et c'est essentiellement fait par des associations, du coup, des bénévoles. Et les bénévoles, bah, ils mettent un temps mais monstrueux, que ce soit sur la partie sportive, la partie communication, la partie inscription. Il y a la gestion des bénévoles qui est un énorme sujet aussi. Bah, du coup, ça, c'est du temps. Et les partenaires, il n'est pas illogique, vous, de leur expliquer, bah, tout ce temps-là, on fait en sorte c'est pour organiser un événement de qualité. Et cerise sur le gâteau, on a une audience, une forte communauté qu'on vous met à dispo dans le cadre de notre com. Et ça a une valeur, en fait. Donc, cette valeur, c'est un coût. Alors, il ne s'agit pas d'aller demander 20 000 euros d'aller demander 20 000 euros à ton agence bancaire ou à ton assureur de ton village. Si ton événement fait 300 participants, enfin, du moins, faut faire attention, faut rester dans des proportions cohérentes. Mais je pense que tu as tous les arguments pour aller demander un soutien financier, quoi.
Tu parlais de la gestion des bénévoles et il y a Recruiteer qui est dans le team partners qui aussi passera donc sur le podcast. Je
Très,
spoil un
très bonne
peu le
solution.
les nouveaux participants au podcast, mais effectivement le sujet de la gestion des bénévoles c'est aussi un gros sujet. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu as déjà identifiées et vues très souvent, trop souvent? Et qu'il faut absolument éviter de faire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as vu qui reviennent souvent?
Dans la recherche de partenaires ou
Oui, dans la recherche, dans la relation, dans.
ouais bah oui alors déjà moi j'ai tendance à penser que dans la recherche de partenaires faut essayer de s'essouffler le moins possible parce que enfin c'est tout le temps la difficulté déjà quand tu cherches des partenaires c'est bon qui je vais adresser puis t'as pas les contacts alors t'essayes de trouver coûte que coûte un numéro de téléphone un mail et puis à la fin tu te retrouves à envoyer des mails un peu partout et ça du coup c'est une approche très quanti c'est-à-dire tu t'essayes de faire le plus possible et t'espères dans le lot que tu vas avoir un potentiel partenaire qui sera intéressé. Ouais, enfin, moi je trouve que ça c'est un piège. Je trouve que t'as mieux fait de cibler. C'est-à-dire que C'est plus tu passeras du temps dans la préparation de ta recherche de partenaires, bah, plus elle sera efficace. Et donc, du coup, tu as mieux fait de cibler les gens que tu veux contacter, essayer de vraiment faire un travail de, avant de les contacter, de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, leur rapport au sport, leur rapport à ton événement et ta discipline. Et pour avoir du coup, une approche qui reste une approche commerciale, hein, de prospection, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus douce et beaucoup plus, enfin, beaucoup plus pertinente pour l'interlocuteur que tu vas avoir. Et donc ça, enfin, moi j'ai deux façons de faire qu'on a toujours fait. Enfin, moi dans mon ancien job, on faisait aussi comme ça, mais c'est bah, capitaliser sur le réseau. Après, quand je dis ça, je pense pas que je vais apprendre grand chose à tes auditeurs, mais c'est effectivement capitaliser sur leur réseau, essayer d'être un peu en veille et s'intéresser dans ton réseau qui peut connaître qui, puisque la mise en relation, je vous contacte de la part d'eux, c'est 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus efficace qu'un email envoyé en direct. Et après sur la recherche enfin hors réseau, moi je m'appuie énormément sur LinkedIn. C'est LinkedIn pour identifier les bonnes personnes, parce que quand vous cherchez des partenaires, généralement vos interlocuteurs, c'est des gens qui ont un job soit de responsable sponsoring, responsable partenariat, responsable communication, responsable marketing. Quand c'est en local, c'est peut-être plus des directrices ou directeurs d'agence ou quoi. Mais l'avantage de LinkedIn, c'est que on peut faire des filtres et des recherches hyper ciblées pour trouver les bonnes personnes. Et du coup, moi, une fois que j'ai identifié des boîtes ou des personnes, bah, avant de contacter, je fais l'effort d'aller sur le site internet de la boîte, quel que soit son secteur, pour essayer de comprendre, quoi. Et en fait, en faisant ça, alors, ça prend un peu de temps, c'est une méthode, quoi. L'avantage, c'est que j'arrive, du coup, j'arrive avec une approche qui est ultra personnalisée. Et du coup, la personne, bah, elle est beaucoup plus, elle est tout de suite beaucoup plus réactive et beaucoup plus à l'écoute de ce que tu as à lui raconter, quoi. Donc ça, c'est un premier biais que j'ai constaté.
Ça s'apparente moins au message bourrin spam que tu peux envoyer à toute une liste de 10 000 potentiels partenaires.
Ouais. Bah ça c'est testé, éprouvé. Je l'ai fait. Hein, la méthode un peu bourrin. Après, en fait, c'est pas quali. Et puis, bah, in fine, t'as pas de résultat, quoi. Donc, enfin, moi, c'est très basique. Je regarde de mon expérience. J'ai testé plein de trucs et j'ai retenu ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Et en échangeant avec beaucoup de nos clients chez Osponso, je m'aperçois que bah, c'est des méthodes qui sont. J'ai pas du tout la prétention d'inventer l'eau chaude. Cette méthode-là, c'est une méthode que je vois dans beaucoup des organisations qui sont chez nous, chez Osponso, qui est plus une approche personnalisée, quoi.
Et regardez les marques qui sponsorisent des événements similaires aux nôtres ou déjà un peu plus en avance sur nous. Est-ce que c'est une stratégie qui est bonne ou pas
Bah,
forcément?
si, c'est très bien parce que une marque, ce qu'elle veut, en général, une marque, ce qu'elle veut, c'est pas faire une action, une communication one shot, ce qu'elle aime bien, une marque, quel que soit le type de marque, que ce soit dans le sport, un équipementier, une marque de montre, de bâton, de nutrition ou une assurance, une banque, hein, pour citer que ces deux domaines. Ce qu'elle souhaite, c'est de la redondance, c'est de pouvoir parler de façon régulière à une audience tout au long de l'année. Et donc, du coup, tu as beaucoup de marques qui, en national, vont avoir une stratégie qui a été élaborée. Et du coup, je vais reprendre l'exemple. Je prends un exemple qui est assez parlant, c'est Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque qui donne le la. Crédit Mutuel, en national, ils ont identifié la culture comme un aspect stratégique et majeur en termes de communication. Et du coup, derrière, de façon très linéaire qu'on a découlé, c'était de dire, les nationales, ils ont dit en régional ou en local, bah, il faut investir dans la culture. Donc c'est pour ça que dans la plupart des festivals de musique, tu retrouves souvent cette banque qui est partenaire avec le petit claim, la banque qui donne le la. Donc toi, pour répondre à ta question, d'aller regarder ce que font des marques sur d'autres événements, bah il y a de fortes chances que les marques, une marque qui est événement d'un trail en Haute-Provence, si elle sponsorise le trail en Haute-Provence, il y a de fortes chances que ça répond à une certaine stratégie, une certaine guideline, et qu'il y ait des chances que cette marque-là veuille aussi parler à la même audience, mais dans un autre territoire, le tien. Et donc, du coup, toi, tu arrives avec le bon produit, quoi.
Eh ben écoute, Romain, je trouve qu'on a fait un joli petit tour, hein, parce qu'il y a encore plein de sujets à aborder sur le sujet du partenariat. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre blanc sur le sujet que j'avoue, j'ai commencé à lire, je ne l'ai pas terminé encore. Il est très chargé, très fourni. Il y a plein de bons conseils et de bonnes astuces à aller chercher, notamment les exemples de contreparties. Qu'il y a certaines qui sont classiques, évidentes, la petite publication Facebook ou le logo sur le t-shirt, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins vues partout et qui peuvent aller séduire d'autres types de partenaires. Donc, je mettrai le lien en description, chers auditeurs, si vous voulez aller télécharger le lien, mais de toute façon, il est disponible sur osponso.com.
Exactement.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter, Romain, peut-être pour clôturer notre échange?
Oui, oui, j'aurais plein de choses à dire parce que je pense que le sujet est vraiment passionnant. Après, s'il y a un truc à retenir, c'est, je pense, en tout cas, le message que je veux faire passer, c'est que pour chercher des partenaires, il y a pas de recette magique. Il n'y a que de la méthode. Et c'est en mettant en application et en exécutant une méthode qui est efficace et éprouvée que vous allez tous arriver à vos fins, qui est celle de trouver des partenariats et surtout les fidéliser dans le temps. Et donc, après, si, pour clôturer, moi, mon message, c'est de dire et de rappeler ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, le meilleur moyen pour vous d'augmenter vos revenus de partenariat, c'est de faire en sorte que vos partenaires actuels soient contents. Et s'ils sont contents, il y a de fortes chances pour qu'ils vous aident à, ils continuent à vous soutenir. Et que si demain vous avez 10, 15, 20, 25 partenaires, 25 partenaires à qui vous allez demander non plus 500 euros de partenariat, mais peut-être 550 ou 600, ou plus 4000 euros, mais 4500, du coup, ça fait pour vous une hausse de revenus qui est loin d'être neutre. Et donc, cette méthode, c'est, après, c'est pour faire une petite pub, mais le fait d'avoir une méthode dans la recherche et l'exécution des contrats, c'est ce que nous, on a essayé, c'est ce que nous, on a essayé, enfin, le sujet auquel on a essayé de répondre avec notre solution Osponso qui va te permettre de piloter ton programme de A à Z sans te prendre la tête et surtout en quelques clics.
Bah écoute, merci beaucoup Romain pour tous ces bons conseils que je vais tenter de mettre en application au fur et à mesure, hein, parce qu'il y a plein de choses encore à mettre en place pour progresser, que ce soit sur le sujet des partenariats, mais sur plein d'autres sujets. Donc merci beaucoup Romain pour tous ces précieux conseils. Et puis chers auditeurs, si jamais ça vous a plu ou si jamais vous avez des questions à poser à Romain, n'hésitez pas, je mettrai ses coordonnées dans la description. Et puis comment on te contacte d'ailleurs sur LinkedIn principalement, hein?
LinkedIn, LinkedIn, après par mail, c'est facile, c'est romain.pio@osponso.com et je donnerai pas mon téléphone, mais non, non, LinkedIn et mail, c'est très très bien.
Parfait. Merci Romain.
Merci beaucoup François, à bientôt.